Au jeu des 7 familles, dans la catégorie bovin, vous pourriez demander la génisse, le broutard, le taurillon, la vache, le bœuf et le veau, bien sûr, mais également la bufflonne, le zébu ou le yak. Tous ces animaux domestiques familiers sont issus d'un même animal, l'aurochs sauvage. Et à force de les côtoyer tous les jours dans nos campagnes ou dans notre assiette, nous avons totalement oublié ce colosse primitif à grandes cornes qu'est l'aurochs et qui a fait son apparition il y a 500 000 ans. Aujourd'hui disparu, l'aurochs a même eu les honneurs des grottes les plus prestigieuses, comme Lascaux ou Chauvet. Cro-Magnon en pincé pour l'aurochs, comme nous en pinçons aujourd'hui pour un bon steak tartare. Aujourd'hui, les éleveurs ont travaillé sur la reconstitution de l'aurochs. Comment s'y sont-ils pris et quelle est l'histoire de ce premier bovin domestique? On en parle avec mes invités Bernard Denis et Claude Guintard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. Bernard Denis, vous êtes professeur honoraire de l'École vétérinaire de Nantes et membre de l'Académie d'agriculture de France. Vous êtes également président de la Société d'ethnozootechnie, cette discipline qui étudie la manière dont les peuples pratiquent l'élevage des animaux. Et puis Claude Guintard, vous êtes docteur vétérinaire, maître de conférences en anatomie comparée à l'École vétérinaire de Nantes et président du CIRDA. C'est le syndicat international pour l'élevage, la reconnaissance et le développement de l'aurochs reconstitué. C'est la seule fois où je le dirai pendant l'émission. Vous publiez avec Olivier Néron de Surgy aux éditions Guerfaux l'aurochs de Lascaux au XXIe siècle. Et on va donc se retrouver ensemble dans un instant pour comprendre comment les hommes sont parvenus d'abord à isoler cet énorme animal sauvage pour le sélectionner et en faire l'ancêtre de tous les bovins domestiques que nous connaissons actuellement. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions en direct et les messages franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Le quiz de la tête au carré, ce sera dans la dernière partie de l'émission avec Florence Porcel et deux nouveaux candidats. Violaine Ballet est aux commandes de ce dossier qui a été préparé par Sylvain Guilbeault.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le docteur Dupin nous a rejoint. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous avez une mine réjouie aujourd'hui. Je crois savoir que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer cette semaine.
Oui Mathieu, une très bonne nouvelle. Nous disposons désormais de suffisamment de données scientifiques et de recul pour affirmer qu'il n'y aura pas d'épidémie de virus Ebola en Occident en général et en France en particulier.
Alors vous semblez ne pas douter de ce que vous avancez. Qu'est-ce qui vous permet bien sûr d'être aussi formel?
En fait, je me fonde sur deux éléments qui se renforcent mutuellement. Tout d'abord, il y a un élément théorique issu de la science des épidémies. Le virus Ebola possède des caractéristiques qui rendent sa diffusion difficile dans les pays dont les structures sanitaires fonctionnent correctement, je vais y revenir. Et ensuite, la confirmation de la théorie par la pratique, ce qui est quand même toujours rassurant. Certains pays africains limitrophes du foyer épidémique sont parvenus assez facilement à bloquer la diffusion de la maladie. Et l'Occident ne compte à ce jour qu'un cas de contamination survenu hors du territoire africain.
Vous voulez parler de l'aide-soignante espagnole,
a priori ? Exactement, exactement. Elle a d'ailleurs présenté une forme peu grave et qui a guéri sans séquelles, mais... Revenons aux éléments théoriques. Pour qu'une épidémie survienne dans un groupe humain, il faut que son taux de reproduction de base soit élevé.
C'est-à-dire ?
Ce taux, c'est le nombre de sujets sains qui sont contaminés en moyenne par un malade. Ce taux de contamination, qu'on appelle R0, est fonction de la contagiosité de la maladie, bien sûr, mais aussi de facteurs culturels, sanitaires, économiques, qui ont joué un grand rôle en Afrique. En pratique, le R0 du virus Ebola en Afrique est d'environ 1,5, c'est-à-dire qu'un malade contamine moins de 2 personnes. C'est suffisant pour entretenir une épidémie, mais ce taux est tout de même peu élevé. En comparaison, il est de 15 pour la rougeole et de 3 pour la grippe. Or, en Occident, où on a quand même des capacités d'isolement des malades et où ceux-ci ont confiance dans leur système sanitaire, le R0 du virus Ebola est très inférieur à 1, et ce qui est le seul minimal pour le déclenchement d'une épidémie, bien sûr. Il en est donc du virus Ebola comme du choléra. C'est une maladie de la pauvreté et du sous-développement sanitaire. Le virus Ebola ne se transmet pas dans l'air, il survit mal à l'extérieur du corps humain et il n'existe quasiment pas de sujets contaminants qui restent en bonne santé. Ces trois tares majeures font du virus Ebola un mauvais candidat pour une diffusion significative en Occident. On aura peut-être quelques cas sporadiques, mais jamais d'épidémie à proprement parler.
Mais alors, si ce que vous dites est vrai, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas ce discours rassurant d'ailleurs,
hein ? Eh oui, mais tout d'abord, les discours rassurants sont peu vendeurs auprès des médias. On l'a vu pendant la grippe H1N1. Ensuite, quelques voix dissonantes se sont quand même manifestées. Sur notre antenne, le professeur Didier Raoult, un des meilleurs spécialistes mondiaux des virus africains, était très clair dès le mois d'août au micro de Daniel Messager.
Je pense que ça n'est pas la peine, tous les 3 mois, d'affoler les populations internationales avec des maladies qui ont une importance, certes, mais une importance locale ou loco-régionale.
On en est à plus de 1500 morts quand même, là.
Oui, oui, mais vous savez, il est mort l'année dernière, 1500 morts en France de septicémie à Escherichia coli, 1500 morts des conséquences de l'hépatite B. Il en est mort 1500 de septicémie à staphylocoque. L'OMS fait un peu ce qu'elle pense, mais si vous voulez, la succession de ces crises sanitaires qui ne se révèlent jamais exactes pose un problème de crédibilité d'ensemble, puisqu'on a eu les grippes aviaires, on a eu le SARS, on a eu le MERS Corona, maintenant on a Ebola. Et pour vous dire la vérité, en 15 ans de ces maladies, il y a eu un SARS en France, il y a eu un MERS Corona qui a infecté son voisin, il y a eu zéro cas de grippe aviaire, il y a eu zéro cas d'Ebola. Donc il y a une disproportion monstrueuse entre la réalité des maladies infectieuses et contagieuses dans nos pays et l'information qu'il ressort, en particulier de l'OMS, dont le rôle est d'essayer de démontrer qu'il a une activité et une importance.
Voilà, il va pas avec le dos de la cuillère, hein, Didier Raoult. À 1500 morts, c'était effectivement au mois d'août, hein, au moment Absolument. De cette interview. On est à plus de 5000 maintenant en Afrique, donc on peut dormir sur nos deux oreilles, a priori.
Oui, Mathieu, tant que ce virus Ebola restera ce qu'il est, nous ne risquons pas grand-chose. Et l'urgence, la vraie urgence, ce n'est pas dans la préparation de la France à une épidémie qui est donc improbable, mais dans l'aide qu'il faut apporter aux pays africains les plus démunis. Mmh. Et heureusement, il semble que les pays occidentaux commencent à en prendre conscience.
Merci beaucoup Dominique Dupagne. Votre chronique est à réécouter évidemment sur franceinter.fr, sur le site et à la page de La Tête au Carré. A très bientôt. Merci à vous. Allez, l'auroch dans un instant, l'ancêtre de tous les bovins domestiques. C'est le dossier de La Tête au Carré. Toutes vos questions les plus vaches possibles, bien sûr, franceinter.fr. Lucas Santana et Féfé à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Alors, on va la choisir, cette vache, parce que moi, j'y connais rien.
Fais-moi confiance, va.
Je vais te trouver une bonne laitière.
Une marcheuse, surtout.
Ouais, naturellement. Ah, voyons. Non.
Pourquoi non?
La vivacité de l'œil est très importante.
La vivacité de l'œil?
Oui.
Et alors, si elle a l'œil bovin, c'est mauvais signe?
Très mauvais. La douceur du regard est l'indice d'un caractère paisible, sociable, bienveillant.
Humain.
Voilà. Attends-toi. Eh ben tiens, la voilà, hein. Pas d'hésitation pour celle-là. Je te répondais comme de moi-même. Ça, c'est de la vache.
Oui.
Voilà, on va parler de l'ancêtre de Marguerite, donc extrait de La Vache et le prisonnier d'Henri Verneuil avec Fernandel, bien sûr, en 1959. Cet ancêtre, celui de tous les bovins domestiques, l'auroch, un sacré costaud, une belle bête à cornes, tête au carré donc avec ce dossier aujourd'hui, à l'occasion de la parution de cet ouvrage L'auroch de Lascaux au XXIe siècle. Claude Guintard, vous êtes l'auteur de cet ouvrage avec Olivier Néron de Surgy. Vous êtes vétérinaire et maître de conférences en anatomie comparée. Et à vos côtés se trouve Bernard Denis, professeur honoraire de l'école vétérinaire de Nantes. Et les messages arrivent déjà nombreux sur franceinter.fr et sur les réseaux. Les messages courts sur le mot-clé « l'attaque ». Claude Guintard, Bernard Denis, vous nous le présentez quand même, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Il a été votre professeur.
Tout à fait. Donc Bernard Denis a été mon professeur de zootechnie quand j'étais en première année à l'école vétérinaire de Nantes. Mais il a surtout été mon directeur de thèse sur une thématique qui n'est pas très éloignée, puisque j'ai soutenu une thèse qui s'intitulait « L'auroch et ses essais de reconstitution » sous sa direction en 1988.
Ouais. C'est le début de l'histoire, Bernard Denis, quasiment, hein?
C'est le début de l'histoire parce que l'auroch n'a absolument pas lâché Claude Guintard par la suite. Les
le
éleveurs
contraire.
Qui s'y intéressaient ont trouvé quelqu'un de disponible, de motivé. Oui. Et depuis, on connaît la suite.
Oui, mais c'est surtout sur le travail de reconstitution parce qu'à l'époque, ça se faisait déjà ou pas?
Alors, ça avait déjà été fait puisque ça remonte aux années 1920-1930. Par contre, il y avait uniquement des aurochs reconstitués en parc zoologique en France puisque le premier animal est arrivé aux Oramas européens de Chizé en 1979.
Oui.
Hein, c'est Daniel Guérineau, le directeur qui a introduit une femelle qui venait de Berne et un mâle qui venait de Munich. Et le premier élevage s'est fait en 1989. Hein, Jean-Luc Marie, la ferme de l'auroch, ça porte bien son nom dans le Jura.
Et on trouve combien de têtes alors à peu près en France aujourd'hui?
Alors à l'heure actuelle, il y a à peu près 500 têtes d'auroch reconstituées. Hein, c'est une race, on va dire, à très faible effectif. Hein, mais
et le nom, c'est auroch reconstitué.
Tout à fait. C'est pour le différencier justement de l'ancêtre dont on va parler.
Il y a quelques petites différences quand même.
Il y a quand même quelques différences. On n'a pas reconstitué une espèce disparue. On a reconstitué quelque chose qui ressemble à l'ancêtre. Au niveau phénotypique, au niveau de l'aspect général.
Ouais, on n'aurait pas pu évidemment reconstituer tel qu'il était à l'époque l'auroch. Hein.
Non, pour plein de raisons. D'abord, c'est qu'une espèce disparue, elle disparaît avec son génome. Même si elle a une descendance après, on a, on va dire, une recette dont on aurait les ingrédients, mais on n'aurait pas justement cette recette. On ne saurait pas comment les mélanger entre eux.
Ouais.
Donc c'est assez compliqué. Et puis, les raisons qui ont fait que cet animal a disparu sont toujours là. C'est-à-dire qu'on en parlera tout à l'heure. La pression de sélection autour de cet animal sauvage, elles sont toujours là. Donc, où le mettre, cet animal? On est un peu dans... sans que ça aille jusqu'au fantasme de la réapparition du mammouth ou du dinosaure, mais on en ferait quoi d'un dinosaure à l'heure actuelle? On le mettrait où? Dans quel biotope?
Et la question se pose aussi pour l'auroch.
Et l'auroch, bien sûr, à un autre niveau se pose.
Ouais, il y a beaucoup de descendants, Bernard Denis, par contre, hein, de l'auroch, évidemment, aujourd'hui.
Les descendants domestiques sont innombrables. Le nombre exact de bovins dans le monde, j'avoue que je ne l'ai pas forcément en tête, mais on est à plus du milliard, hein, qui est réparti en plus de 800 races qui ont été répertoriées.
Ouais.
Les races n'étant pas forcément toutes standardisées et bénéficiant de contrôle de la reproduction, mais en tout cas identifiées sur le terrain.
Oui, alors Denis demande sur franceinter.fr si le bison est un descendant de l'auroch.
Non, absolument pas. Deux espèces complètement différentes et qui ne s'hybrident pas entre elles.
Oui. Qu'est-ce qui les différencie d'ailleurs fondamentalement?
Alors, la morphologie, l'ancêtre commun à ces deux espèces, il faut quand même aller le rechercher, cet ancêtre, il y a à peu près... 4 à 5 millions d'années, donc ce sont deux espèces qui ont divergé depuis très longtemps, on va dire, enfin, depuis longtemps, pas très longtemps, mais longtemps, et ce sont deux espèces qui n'ont pas tout à fait le même biotope. Alors, elles ne s'hybrident pas au petit bémol près qu'il peut y avoir un hybride qui n'est pas fertile. Les Polonais appellent ça le joubrogne. Donc c'est un animal tout à fait original. J'en ai vu à Popielno en Pologne.
Ça ressemble à quoi?
Alors ça phénotypiquement, on dirait un bison. Oui. C'est d'ailleurs le gros problème, c'est que les Polonais ne souhaitent pas voir de bovins sauvages en Pologne, et notamment de roques reconstitués, parce que comme ça s'hybride avec le bison et que ça ressemble à un bison, ça polluerait, entre guillemets, génétiquement, leur bison.
Les raspures de bison.
Exactement.
Ouais. Donc le joubrogne.
Joubrogne.
Ah, c'est très joli avec le petit air roulé comme ça. Viron demande le roque, justement, est-ce qu'il est inféodé au milieu forestier? Et pourquoi les bisons, malgré leur quasi-disparition, ont mieux résisté que les auroques?
Alors les bisons sont des animaux qui, en refuge, on trouve le milieu forestier comme habitat, mais il y a d'autres animaux qui ont trouvé ça. Hein. Les cervidés se sont retrouvés dans la forêt, c'était pas des animaux de forêt au départ. Par contre, ce sont des animaux qui résistent beaucoup mieux au froid. On retrouve des bisons au nord du 60e parallèle, on n'a jamais retrouvé d'aurochs au nord du 60e parallèle. Mm-hmm. Du coup, les bisons, par exemple, ont passé le détroit de Bering, chose que n'ont pas fait les aurochs. Ouais. Ce qui fait qu'il y a eu une spéciation, bisons d'Europe d'un côté, c'est le bison de départ, on va dire, et le bison d'Amérique de l'autre. Le roc, il est resté en Eurasie, il est resté coincé au sud du 60e parallèle, il n'a pas passé le détroit de Bering, ce qui veut dire que, pour faire le lien avec ce que disait le professeur Denis tout à l'heure sur les races bovines, avant l'arrivée des races bovines domestiques en Amérique, du nord ou du sud, eh bien, il n'y a pas de bovins en Amérique. Donc le roc n'est jamais allé en Amérique et il n'a pas, et c'est pas un animal des grands froids. Alors, en termes de morphologie, ce sont deux animaux qui ne se ressemblent pas tout à fait. Le bison a un avant beaucoup plus développé, une bosse très, très forte, une tête assez massive, une crinière, et puis des cornes assez arrondies, assez enroulées, alors qu'on décrira les cornes de l'auroch comme étant en lyre haute, donc des cornes assez exubérantes, on va dire, assez larges.
Oui, qui étaient bien représentées d'ailleurs sur les parois des grottes, mais ça aussi on y reviendra tout à l'heure avec vous. Bernard Denis, vous êtes président de la société d'ethnozootechnie, vous pouvez nous décrypter ce mot bizarre s'il vous plaît?
Alors l'ethnozootechnie est une des nombreuses ethnosciences qui ont commencé d'apparaître à la fin du 19e siècle. Si on prend le nom d'une discipline, par exemple la zoologie, et que l'on mette avant le préfixe ethno, on sous-entend zoologie populaire, c'est-à-dire la zoologie telle que la connaissent les populations, en dehors des scientifiques.
Et donc, alors, vous intéressez à quoi exactement?
Ethnozootechnie, c'est donc la zootechnie traditionnelle. Alors, on s'intéresse à tous les aspects traditionnels des techniques de l'évolution générale de l'élevage. Mmh. Et il y a un thème qui nous a particulièrement retenu, qui est celui de la sauvegarde des races locales d'animaux domestiques qui ont commencé à souffrir, disons, dans la décennie 70 dans un pays comme la France et dans bien d'autres.
Pas seulement les bovins d'ailleurs, je crois.
Pas seulement les bovins, absolument. Et la Société d'ethnozootechnie avait été la première structure en France à organiser un colloque sur ce thème en 1974.
Oui. Alors vous nous avez apporté, Claude Guintard, un joli petit pâté d'auroch. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on montre cette boîte, on dit, mais mon Dieu, je croyais que l'auroch avait disparu. Ben, c'est ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'aujourd'hui on a un auroch reconstitué.
Tout à fait.
Voilà. Et donc on peut manger un pâté que je vais déguster après l'émission avec toute l'équipe.
Bon, très bien.
Ça a quel goût? Alors, c'est une viande un peu plus corsée que le bœuf ou pas?
Oui, alors, bon, ça reste du bœuf, clairement, mais c'est le mode d'élevage qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est des animaux qu'on met en hyper extensif, qui vivent toute l'année dehors, qui mangent ce qui s'y trouve. Donc, c'est une viande qui va, par certains côtés, ressembler un peu à du gibier, qui est peu grasse, riche en acides gras polyinsaturés, en oméga 3, donc pauvre en cholestérol. Donc
ah, vous nous faites l'article, là,
vraiment. Je vous fais l'article, donc voilà.
Vous avez des intérêts dans
J'ai aucun intérêt, là, c'est Bernard Lafont, qui est un éleveur de Sadirac, donc en Gironde, qui me l'a envoyé. Donc,
mais avec de l'échalote et du piment, en l'occurrence.
Tout à fait. Donc, bon, c'est vraiment très confidentiel, parce qu'il y a une dizaine d'éleveurs en France qui... sont capables de produire ce genre de on va dire, valorisation, c'est-à-dire la viande, la viande séchée.
Quel est l'intérêt, alors, justement, aujourd'hui, avant de revenir un petit peu sur l'histoire de l'auroch, de vouloir reconstituer absolument cette race?
Alors, l'intérêt premier de cette reconstitution, entre guillemets, je mets toutes les formes, c'était de pouvoir montrer, parce que ça a été fait par des directeurs de parcs zoologiques, donc c'était de pouvoir montrer, à côté du bison qui existe encore, on va dire, qui n'a pas disparu, lui, de montrer l'ancêtre des bovins. Parce que les gens, d'abord, confondaient le bison et l'auroch, et puis ne savaient pas trop d'où arrivait la vache. Hein. C'était, et on peut continuer tous les...
C'est pour ça que ça nous a intéressé de faire l'émission. Exactement, voilà. Mais franchement, quand on a reçu votre
public,
livre,
si on demande,
c'est ce qu'on s'est dit. On s'est
qu'est-ce que l'auroch ou d'où vient la vache?
Absolument.
Ben, je pense qu'avant que le lien soit fait, on
voilà, de l'idée de pouvoir en parler.
D'accord. Ouais. Donc c'était ça au départ. Donc c'est un but, on va dire, pédagogique. Mais après, on s'est rendu compte que cette reconstitution ayant été faite en croisant des bovins très rustiques, très primitifs, qui avaient gardé des caractères de l'auroch, eh bien finalement, on avait réussi à obtenir un animal qui lui-même était très rustique et qui... alors ça, c'est surtout ce que je vais dire a été ressenti à partir des années 1990. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on était dans une production hyper intensive où le bovin, c'était un bovin vers toujours plus de lait, toujours plus de viande, notre auroch qui avait des grandes cornes, qui produisait pas de lait et qui avait peu de viande, il intéressait personne. Mais quand on s'est rendu compte, après les criches de la vache folle, etc., qu'il y avait peut-être d'autres façons d'élever, il y avait également la valorisation des milieux un peu difficiles, hein, des milieux en déprise agricole, des friches, des zones de cause, des milieux humides aussi, eh bien, on a mis des animaux très rustiques et on s'est rendu compte que l'auroch passait très très bien. Par le pâturage extensif, arrivait à garder ouvert ces milieux. Ça évitait que ça s'embroussaille, ça s'enforeste. Et puis finalement, ça a été le micro-créneau de cette race. Et puis, on va dire, c'est aussi le même créneau pour les races à faible effectif. Et là, je pense que le professeur Denis en parlerait.
Alors, justement, Bernard Denis, est-ce qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'auroch, c'est justement de ne pas avoir une bête quand même extrêmement costaud par rapport même aux bovins qu'on a aujourd'hui dans nos pays?
Oui, alors je rebondis sur ce que vient de dire Claude. Il est bien clair que le biotope dans lequel on élève des aurochs est exploité également par une multitude de races à faibles effectifs qui font partie de notre patrimoine en France.
Vous pensez à quoi,
et
par
dans
exemple,
d'autres pays? Oui. Oh, bah alors je pourrais vous aligner une quinzaine de races. Il y a la nantaise, la maréchine pour l'ouest, vous avez pour le sud-ouest la lourdaise, la béarnaise, qui sont des races donc des Pyrénées, etc. Alors, ces races se portent plutôt bien depuis une quinzaine d'années. Leurs effectifs augmentent, mais la situation demeure quand même assez fragile. Et elles sont exploitées dans un contexte d'agriculture alternative, souvent agriculture paysanne, et bénéficient d'un intérêt accru de la part des populations pour le patrimoine régional au sens large.
D'accord.
Donc, le fait, en achetant des produits chez un éleveur de la race de la région, revient à contribuer au maintien de cette race dans les paysages.
Oui.
Alors, ces races sont toutes dotées d'une certaine rusticité, encore que le complexe rusticité est assez compliqué, il est travaillé aujourd'hui. L'auroch est fort probablement, si l'on arrivait à trouver des critères objectifs pour le mesurer, la plus rustique des races bovines présentes en
France.
Est-ce
qu'il a hérité justement de sa constitution, en tout cas de la constitution de son ancêtre? Est-ce que ce sont des animaux qui ont une bonne résistance aujourd'hui par rapport à d'autres bovins ou pas?
Oui, absolument. C'est ça qui est inscrit dans la notion même de rusticité. L'aptitude à se débrouiller quasiment tout seul et dans des conditions extrêmement difficiles.
Viron demande si l'auroch est reconstitué. Dans quel milieu naturel peut-on alors le retrouver exactement?
En l'état actuel, l'auroch pourrait parfaitement être élevé dans des milieux même riches, mais ça présenterait aucun intérêt. Hein.
Oui.
Donc, il s'agit de le mettre en des endroits où le réflexe des agriculteurs n'est quand même pas d'y faire de l'élevage.
Oui. Claude Guintard, on l'écrit qu'un S, un auroch, hein,
oui,
toujours.
Tout à fait. Oui, ça vient de son origine germanique, ox, le bœuf, donc our ox, le bœuf primitif, ou our ox, qui est le bœuf des plaines. Oui. Là, il y a plusieurs étymologies proposé. En latin, c'est urus. Les cruciverbis connaissent mieux ur ou ur avec un e. Hein, c'est le terme dérivé du latin urus. Et nous, auroch, on met un s en français toujours.
Hein. Allez, on va se retrouver dans un instant et puis on va bien sûr évoquer la domestication de l'auroch. Comment les hommes préhistoriques sont parvenus à maîtriser cet animal rustique, costaud et sauvage, évidemment. On en parle avec vous et puis beaucoup de questions arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque.
You gotta know, I'm feeling love, made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling love.
I said I smell in the air is a dripping rose.
You look at me, the one for me.
Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Before it's hardened, with the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling love, made it gold, I'll never love her.
Gold, Chet Faker à l'instant sur France Inter.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h,
je m'en occupe.
Sur France Inter.
Voilà l'ancêtre de la vache, entre autres l'Auroch de Lascaux au XXIe siècle. Ce livre paraît chez Gerfaux, écrit par mon invité Claude Guintard. Et puis également à nos côtés, le professeur Bernard Denis. Tous vos messages arrivent sur le site de l'émission. Françoise, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de l'Auroch reconstitué. Demande comment est-ce qu'on est parvenu à reconstituer cet animal et avec quelle race est-ce qu'on a procédé ?
Alors l'idée, c'était de reprendre des races bovines assez rustiques qui avaient conservé un certain nombre de caractères de cet ancêtre sauvage, donc les grandes cornes. On a pris de la grise des steppes hongroises, par exemple, qui a des cornes magnifiques. La rusticité, on a pris l'Highland d'Écosse, qui est quand même un animal très rustique. On a pris des animaux qui avaient la couleur de la robe, la couleur fauve charbonnée. Donc, on a été chercher des taureaux de combat espagnols, des corses, des camargues.
Ah oui, un sacré mélange quand même.
Ah oui, c'est un mélange. Il y a au moins 6 ou 7 races au minimum qui ont servi des blanches des parcs anglais pour l'ancienneté de cette race.
Et combien de temps il faut alors pour parvenir véritablement à un résultat satisfaisant ?
Alors, il a fallu au minimum, je dirais, entre. Ça a démarré dans les années 1920 et ça c'est. On parle du premier Auroch reconstitué, phénotypiquement en 1932, mais cet animal-là n'était qu'un premier croisement.
Oui.
Et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on commence à avoir... Le premier herd-book, pour vous donner une réponse très précise, c'est 1980.
Ah oui.
Donc en gros, entre 1920 et 1980, on a suffisamment de générations de bovins pour pouvoir dire, bon ben là maintenant, la descendance est acquise, stabilisée, et donc on peut parler d'une nouvelle race bovine. Quoi.
Ouais. Même chose, même question Bernard Denis, combien de temps demande une domestication ? Alors quand on part d'un animal sauvage comme l'Auroch jusqu'à un animal donc, qui fait partie vraiment d'un groupe social, combien de temps il faut ?
Vous vous doutez qu'il n'y a pas de réponse mathématique à cette question. Si on se réfère à des travaux qui ont été faits en Russie, avec une espèce de renard argenté, je crois, j'en suis pas tout à fait sûr, l'auteur a montré qu'en une vingtaine de générations, on pouvait arriver à faire passer une espèce sauvage d'une espèce acceptable pour la vie en domesticité.
Et pour l'Auroch ?
Pour l'Auroch, on ne peut absolument pas répondre à la question, mais c'est un processus qui est de très longue haleine, d'autant plus que l'homme ne réalise pas forcément très bien ce qui se passe au début de la domestication.
Oui.
Alors, à la limite, je dirais plusieurs siècles, mais je lâche cela de un peu au hasard.
Claude Guintard, qu'est-ce qu'on sait alors de cet animal ? À quel moment il est apparu ? 500 000 ans, c'est
alors, ça ? 500 000 ans, on est au Pléistocène moyen. Cet animal apparaît, on va dire, dans le sous-continent indien. Il diffuse à travers, on a dit, toute l'Eurasie et l'Afrique du Nord. Donc, c'est son aire de répartition géographique. Et il va suivre, on va dire, toutes les civilisations de l'homme récent. Mais dans l'homme récent, un homme qui est l'homme de Totavel, l'Homo erectus, oui. Il y a 400 ou 500 000
ans. Quand on dit il va suivre, c'est-à-dire que géographiquement, on va
aussi,
retrouver, voilà.
Effectivement, on va retrouver cet animal en présence de l'homme. L'homme de Néandertal ensuite, et puis l'homme de Cro-Magnon, ouais. L'Homo sapiens.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a suivi les hommes ou qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est-à-dire que je pense que les deux sont vrais. L'homme a suivi pour la chasse, puisque c'est un animal chassé, et on y reviendra. Cette chasse a perduré, puisqu'après, ça a été une chasse royale. Hein. Les souverains l'ont chassé. Et il a disparu d'ailleurs en 1627.
Alors ça, c'est incroyable, cette précision, alors.
Alors, c'est une précision liée justement au fait que c'était une chasse royale. Donc, il y avait des enclos royaux, il y avait des gardes de chasse royaux, et c'est Sigismond III, le roi de Pologne, qui avait, dès la fin du XVIe siècle, organisé tout ça. Donc on a des registres qui nous indiquent, par exemple, qu'en 1550, on a tant d'individus. En 1601, il y a plus que 4 rogues dans la forêt de Jacques Torof, par exemple, 3 mâles et une femelle. Et en 1627, il y a la dernière femelle. Alors, elle est braconnée, c'est une femelle qui a 30 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment la fin. C'est chronique d'une mort annoncée. Là, on voit l'espèce disparaître sous nos yeux. Ouais. Mais,
et à l'époque, on sait que c'est vraiment le dernier individu ?
Ben alors, il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu même des publications. On se demande s'il n'en est pas resté aux confins de la Russie jusqu'au XVIIIe siècle. Mmh. Mais bon, c'est la dernière fois que la chasse à l'auroch en tant que telle est décrite, on va dire.
Bernard Denis, la carte d'identité de l'auroch, alors c'est quoi exactement ? Il faut décrire cet animal, hein. Ce colosse quand même des bovins à l'époque, alors
le décrire phénotypiquement, il suffit de partir des représentations qui figurent sur la grotte de Lascaux.
On voit un bel animal.
Alors, on voit un bel animal qui, soit dit en passant, possède une couleur de robe qui existe encore aujourd'hui dans plusieurs races d'animaux domestiques. La robe sauvage s'est éparpillée en un certain nombre de races. Alors, il y a le format qui s'est réduit, encore que...
Donc là, on a le format Lascaux, qui est le gros format.
Gros format, mais il y a eu également un auroch plus petit, semble-t-il. Et puis évidemment, la caractéristique première, c'est le développement spectaculaire du cornage. Oui. Je crois que ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour le caractériser morphologiquement.
Ça pouvait peser jusqu'à combien, Claude Guintard, un auroch ?
Un gros mâle, il peut atteindre pratiquement une tonne. Mais alors, ce sont des animaux... Alors, je ne parle pas de ceux de Lascaux, c'est des animaux du paléolithique qui étaient des gros animaux qui pouvaient dépasser 1,80 m, voire, ils sont décrits pour certains, 2 mètres au garrot. C'est énorme, c'est des monstres. Et alors ça, on le connaît. Alors là, c'est autre chose. Ce n'est pas par les peintures rupestres. Là, c'est par les ossements. C'est-à-dire que les peintures rupestres ont un avantage énorme. C'est qu'on a la forme précise, on a même la couleur. L'inconvénient, on n'a pas l'échelle. Ça, les artistes du paléolithique ne nous ont pas mis l'échelle. Donc, on ne sait pas exactement...
Mais oui, parce qu'ils ne
représentaient pas les humains. On n'a rien à côté embêtant. Qui nous permet de savoir la taille exacte de l'animal. Ouais. Par contre, les ossements... nous indique l'échelle, on a la taille exacte de l'os, mais là, on n'a plus la couleur de la robe. Donc, c'est très complémentaire, finalement. Ouais. Et puis, il y a une troisième source, ce sont tous les écrits, puisqu'on a dit qu'il avait disparu pour les derniers représentants au début du XVIIe siècle. Ça veut dire que pendant toute l'Antiquité, pendant tout le Moyen-Âge, on a des descriptions de cet animal, de la chasse notamment.
Et Cro-Magnon aime bien le représenter, c'est-à-dire qu'il est très présent à Lascaux.
Alors, c'est le quatrième animal en termes de représentation à Lascaux.
Derrière le bison d'ailleurs.
Derrière le bison, derrière le cheval et puis les cervidés. Mais c'est un animal qui est bien représenté à Lascaux. Au total, dans l'ensemble de l'art pariétal, il y a à peu près 220 représentations d'auroch. Donc, il n'est pas quantité négligeable. Il est représenté. Et alors, il y a une grotte comme Chauvet. Alors là, on est à l'Aurignacien. À la fin de l'Aurignacien, il y a 28 000 à 30 000 ans. Ouais. Là, c'est magnifique parce qu'on imaginait que Lascaux, c'était... André Leroy Gourhan disait, c'est la chapelle Sixtine de la préhistoire. Et moi, j'ai rajouté dans mon livre, c'est le temple de l'auroch. Ouais. Mais on imaginait que c'était le summum de l'art pariétal. Et on s'est rendu compte que C'est 17 000 ans, Lascaux.
C'est ça.
C'est 28 000 ans, c'est-à-dire plus de 10 000 ans avant, l'homme de Cro-Magnon représentait déjà un animal très abouti.
Et c'est un animal sauvage pour l'homme de Cro-Magnon, justement, Bernard Denis.
Absolument, la domestication est beaucoup plus tardive. On semble s'accorder aujourd'hui aux alentours de 8 500 avant notre ère.
Oui. Et comment ça se passe alors exactement? On a une idée un petit peu de la façon dont procèdent les hommes pour maîtriser cet animal-là.
Il est fort probable que les techniques ont été différentes selon les espèces, mais on est bien sûr livré aux hypothèses. Dans le cas de l'aurochs, vraisemblablement, des animaux ont dans un premier temps été parqués. C'était d'ailleurs un moyen pour l'homme, non pas de faire une réserve de gibier, même si c'est apparu très rapidement, mais un moyen aussi d'affirmer sa domination sur la nature. L'homme sauvage avait besoin de se démontrer à lui-même qu'il
avait des choses à prouver.
Il avait absolument des choses à prouver.
Et a priori, alors, qu'est-ce qu'il choisit comme animal? C'est-à-dire le plus sauvage ou au contraire le plus à même de pouvoir rentrer dans un cercle humain
Non, alors là, je pense que ce mélange de deux éléments, le premier étant la possibilité effectivement de capturer les animaux et de les parquer, et ensuite on entre dans le processus de domestication lui-même, qui fait que ça n'est pas n'importe quelle espèce qui pourra rester domestique. Il faut qu'il y ait en quelque sorte une prédisposition biologique. Bon, c'est un thème également qui pourrait être débattu longtemps, et donc l'aurochs s'est avéré apte à, mais sur une très longue période. Oui. Alors se pose également la question de la nourriture des premiers descendants de ces animaux en captivité, nourris certes par leur mère, mais il faut aussi à un certain moment qu'il y ait des contacts avec l'homme. Et il y a un élément très important qui sera celui de l'apprivoisement. Une espèce qui n'accepte pas la présence humaine, qui ne se laisse pas en quelque sorte apprivoiser, est une espèce qui ne restera pas domestique.
Mais alors pourquoi les hommes font ce choix et prennent le risque aussi de domestiquer un tel animal au départ? Il a une idée derrière la tête déjà? Il veut s'en servir pourquoi?
Non, il est fort probable qu'au tout début, l'homme ne se rendait pas bien compte de ce qu'il faisait. Par contre, le côté utilitaire des animaux domestiques est apparu. C'est-à-dire une espèce qui a fait l'objet de tentatives de domestication et qui finalement ne s'avère pas particulièrement intéressante ne restera pas domestique. Donc, dans le cas de l'aurochs, il est apparu qu'il y avait d'abord une possibilité de consommation de viande, et puis il y a eu ensuite la production laitière qui était sans doute décalée dans le temps. C'est venu après.
C'est venu après. Oui. Donc, il a fallu un petit moment, Claude Guintard, pour que l'homme s'aperçoive de cette richesse qu'il avait là sous la main.
Tout
quand
à
même.
Fait. C'est-à-dire qu'on n'a aucune trace ni de sélection laitière, ni de traction animale, par exemple, parce que ça, c'est le deuxième point intéressant.
Sur la force de viande, travail.
Sur la force de travail d'animal.
De la bête,
on va pouvoir l'atteler. Avant la deuxième moitié du néolithique. C'est-à-dire qu'il faut attendre en gros 3 à 4 000 ans pour commencer à voir ce genre de traces dans les sites archéologiques et tout ça. Ça veut dire qu'au tout départ, c'est certainement ce que le professeur Denis vient de rappeler, la viande, mais on peut imaginer aussi tout ce qui tourne autour, la peau. On est à des époques où
il y a plein d'usages.
Le cuir, les cornes,
les tendons
peuvent servir pour faire de la colle. À la préhistoire, c'est bien connu. On peut s'en servir pour de différentes manières. Et puis le sang, les bouses. On sait que dans certaines populations, encore à l'heure actuelle, on utilise la bouche séchée, par exemple, etc., pour faire des torchis, pour se chauffer, etc. Ouais. Donc, on peut imaginer tout un tas de raisons pour lesquelles cet animal a été domestiqué. Puis, il y en a certainement tout un tas qu'on ne connaîtra jamais, c'est-à-dire auxquels on n'aura pas accès. Je ne sais pas, le professeur Denis a parlé de s'accaparer la nature,
le rôle
force,
social. On peut imaginer social, vraiment le rôle aussi. Social de posséder plusieurs têtes, justement, d'un animal.
Ah, c'est venu au cours de l'histoire, à coup sûr, mais alors, je ne pense pas que c'était plusieurs milliers d'années avant notre ère. C'est venu plus tardivement. C'est sûr que l'importance d'un cheptel est un signe de réussite, un signe de richesse. Mais ça, c'est beaucoup plus tardif, je pense.
Est-ce qu'il y a beaucoup de changements morphologiques, justement, pendant la domestication de l'animal? Est-ce qu'on voit vraiment l'aurochs se transformer?
Alors, on le voit clairement se transformer en termes osseux, par exemple. La taille de l'animal diminue, mais on a expliqué un peu pourquoi tout à l'heure. Si on ne prend pas les plus grands dans la nature pour les domestiquer, leur descendance ne sera pas énorme. La forme des cornes, c'est vrai qu'elle est un peu plus petite également. Et puis, on voit apparaître, alors là, je renvoie aux travaux justement du professeur Denis sur, par exemple, les représentations au tassili de robes de bovins clairement domestique, parce que là, on voit l'homme qui est représenté à côté. Eh bien là, on voit apparaître par exemple des robes avec des taches blanches, les robes pie, les fameuses robes pie, oui, qu'on n'a jamais...
À partir de quand alors ça apparaît ?
Alors là, on est il y a 4000 ans à peu près.
À peu près, oui.
Hein, donc ouais. On voit apparaître ça, on voit apparaître ce genre de représentation en Égypte aussi, sur des animaux qui par ailleurs ont gardé la forme des cornes primigenius, donc tout un tas de caractères de l'auroch, mais qui ont été clairement domestiqués. En Égypte, vous étiez à la bonne page, là, juste après celle-ci. Ça, c'est le Tassili, et juste derrière, vous avez l'Égypte.
On voit vraiment les représentations sur les parois.
On a l'homme juste à côté et on voit les taches blanches. Ouais. Donc c'est là
donc
clairement.
C'est la modernisation aussi de l'auroch. Là on voit vraiment le processus morphologique en changement. Hein.
Cette robe pie, elle est certainement pas un avantage pour un animal sauvage. C'est-à-dire qu'un veau.
Ah bah oui, c'est très repérable quand
même. C'est hyper repérable, à part dans des zones arctiques sur la neige, mais autrement, dans tous les autres cas, le prédateur va repérer un veau qui aurait ses taches blanches. Quoi,
Jean-Marc sur la Takefi sur Twitter. Et le yak dans tout ça. Et Jean-David demande quel pourrait être le lien avec le yak. Beaucoup de questions.
Alors c'est une autre espèce, là, c'est Bos grunien, c'est le même genre clairement, mais il y a une spéciation, c'est-à-dire qu'il s'est séparé de cet ancêtre parce qu'il s'est retrouvé dans un biotope assez isolé, dans l'Himalaya. Et le yak a fait l'objet d'une domestication, donc il y a une forme sauvage, d'ailleurs il n'y en a plus beaucoup, hein, c'est des yaks très imposants, une forme domestique plus petite. Donc là, on est un peu plus loin, hein. On s'éloigne.
Bernard Denis, comment on définit une race bovine? Sur quels critères finalement aujourd'hui est-ce qu'on travaille?
Alors, la définition de la race, je ne pense pas que ça présente d'intérêt d'essayer d'en proposer une, parce qu'on ne s'entendra jamais exactement là-dessus. On peut parler très brièvement de la manière dont les races se sont constituées. Elles sont, dans toutes les espèces, et chez les bovins en particulier, issues d'une longue différenciation régionale, provenant tout simplement du fait que la probabilité que des animaux d'une même région se reproduisent entre eux est quand même plus grande que la reproduction avec des animaux de la région voisine. Mais les populations, évidemment, pendant très longtemps, demeurent polymorphes, notamment au plan de la couleur de la robe, ce qui est ce que l'on voit immédiatement. Et c'est au XIXe siècle, dans la deuxième moitié, à la suite d'un épisode très important pour l'histoire de l'élevage, mais qui est un autre sujet, qui est celui du croisement avec des races anglaises, le Durham, pour ne pas le citer en France, que les éleveurs ont décidé de constituer les races autochtones, en voulant montrer qu'on était capable de faire aussi bien que les Anglais. Alors à ce moment-là, la plupart du temps, au sein de la population régionale, on repère les animaux dont on estime qu'ils sont les plus représentatifs de celles-ci et qui proposent également le modèle à suivre par sélection. On écrit un standard et on commence à ouvrir un livre généalogique, c'est affaire de faire du contrôle de filiation et de la sélection rationnelle.
Allez Claude Guintard, deux questions très vite pour terminer. Qu'en est-il du bison, demande Charlie. Est-ce que l'homme a tenté sa domestication? Alors, l'instar de l'auroch.
Le bison n'a pas été domestiqué, mais il faut savoir qu'on en a parlé, la domestication c'est un processus très lourd, donc s'il y a une espèce très proche qui a fait l'objet d'une domestication, quelque part ça empêche une autre espèce très voisine d'être domestiquée, parce qu'on ne va pas refaire cet effort pour obtenir pratiquement la même chose.
Clément demande, est-ce qu'il y a enfin d'autres espèces qui pourraient subir une reconstitution, des ovins peut-être?
C'est-à-dire que là, il faut que l'ancêtre sauvage ait disparu pour que ça ait un sens. C'est-à-dire que quand on est avec le sanglier, on ne va pas reconstituer le sanglier. Il existe quand on est avec... Alors le cheval, le tarpan a fait l'objet de travaux un peu similaires, mais ça reste très marginal. Il faut quand même des conditions particulières. Il faut que cet ancêtre ait disparu en laissant une descendance. Parce qu'on peut imaginer que le tigre disparaisse, on aura du mal à le reconstituer.
Merci infiniment à tous les deux, Bernard Denis, Claude Guintard, donc avec ce livre « L'auroch de Lascaux au XXIe siècle » chez Gerfaux. Et puis merci pour ce pâté d'auroch que nous allons déguster dans quelques minutes avec plaisir, j'espère. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, dans un instant, le quiz de la tête au carré avec Florence Porcel et deux nouveaux candidats qui arrivent après Pixies. Jean-Michel Montussin, la programmation musicale de La Tête au Carré. Where is my mind? Pixies à l'instant. Et le retour du quiz de La Tête au Carré avec Florence Porcel qui m'a rejoint dans ce studio. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Et une nouvelle équipe pour jouer avec nous.
Mais oui, bonjour Mélina, bonjour Florent.
Bonjour à tous les
bonjour.
Deux.
Bonjour.
Une équipe de montagnards même, devrais-je dire. Le choc de la rencontre entre la Savoie d'un côté avec Mélina et le Jura de l'autre avec Florent. Voilà, Mélina, vous habitez à Saint-Julien-Mont-Denis.
Oui, c'est en Savoie.
Vous êtes en altitude ou pas?
À 700 mètres, pas très haut.
700 mètres, bien. Et vous recherchez du travail, je crois?
Oui, dans le domaine des risques majeurs et du développement territorial.
Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite de trouver le plus rapidement possible, surtout. Face Merci. À vous se trouve Florent, qui habite à la chapelle sur Furieuse.
C'est joli.
Oui, c'est
mais
ça.
Mais qui était cette Furieuse, Florent?
C'est le nom de la rivière qui est très furieuse en hiver, surtout.
Et vous êtes à quelle altitude, vous, de votre côté?
Nous, un peu moins, à 300 mètres.
Donc vous êtes un petit peu dominé par Mélina pour l'instant. Et vous êtes informaticien, Florent, c'est bien
oui,
ça.
Oui, tout à fait.
Cette semaine, Florence, on joue avec les éditions Arte.
Mais oui, nous offrirons au gagnant ou à la gagnante le DVD Sacrée Croissance, un documentaire de Marie-Monique Robin. Bonne chance à tous les deux.
Allez, bonne chance, effectivement, Mélina, Florent. Si vous êtes prêts, nous démarrons tout de suite par la question d'actualité. Le 9 novembre dernier, une petite fille en parfaite santé est née par césarienne. On en a parlé d'ailleurs vendredi dans le club de La Tête au Carré. Mais ce bébé avait été opéré in utero à 5 mois de grossesse pour réparer une malformation congénitale. Quelle partie du corps était concernée par cette malformation? 30 secondes pour nous répondre.
Le cerveau.
Le cerveau, c'est une bonne réponse, Florent. Alors Mélina, en fait, vous avez pensé à la moelle épinière peut-être?
Oui.
De la petite fille, c'est par là qu'elle a été opérée, effectivement, mais le problème se trouvait dans le cerveau,
oui,
Florence.
Bah oui, c'est une première en France, d'ailleurs, qui a été réalisée par deux médecins. Opérer un fœtus in utero d'une malformation qui touche le système nerveux central et qui aboutit sur un handicap lourd. Mais dans les 10 jours suivant l'opération, a annoncé un des médecins, les anomalies cérébrales dues à la malformation se sont totalement corrigées. C'est énorme d'avoir pu protéger le cerveau de cette petite fille pour permettre ses apprentissages futurs. Il a ajouté ensuite quand même que le risque de handicap était réduit, mais qu'elle n'était pas totalement guérie.
Allez, 10 points pour vous, Florent, pour commencer donc ce jeu ensemble. Les questions de rapidité, 7 questions pour vous, donc soyez évidemment le plus vif possible. Parlez bien dans votre combiné téléphonique, que nous entendions bien votre réponse, parce que ça peut faire toute la différence. Vous êtes prêts, Mélina et Florent?
Oui.
Allez, 1 minute 30, c'est parti. Quel pays surnomme-t-on le pays du soleil levant?
Le Japon.
Bonne réponse, Florent. Quel fruit de la famille des cucurbitacées est populaire lors de la période d'Halloween?
Le potiron.
Allez, la citrouille, on vous l'accorde, Florent. Sous quel autre nom est connu le pigeon ramier?
Le pigeon voyageur?
Non.
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre, effectivement. Autre proposition? Le pigeon ramier? Non.
Non.
Allez, on passe à la quatrième question. À quel excès de gaz est due l'ivresse des profondeurs lors d'une plongée sous-marine?
L'oxygène?
Non.
L'azote,
Mélina, bonne réponse. Quelle expression désigne les tissus du système nerveux central composé de cellules et de neurones?
La moelle?
Non. C'est une expression qu'on emploie souvent pour parler justement de...
La matière grise.
Voilà, matière grise, Mélina. Quel est le nom du projet visant à vérifier la faisabilité scientifique et technique de la fusion nucléaire comme nouvelle source d'énergie?
ITER,
Florent. Quel est le nom savant du mal de mer? Ah oui, il faut le connaître. C'est la 7e question, c'est la plus compliquée. Le mal de mer. Bon, on revient à notre pigeon ramier, si vous voulez bien. C'était la 3e question. Sous quel autre nom est connu le pigeon ramier? Oh, vous connaissez? Animal. Voilà, oiseau cher à Picasso, par exemple. Et le nom savant du mal de mer? Ça ne vous dit rien, visiblement, Mélina et Florent. Qu'est-ce que c'est, Florence?
C'était la nopathie, du latin navis, bateau, et du grec pathos, ce qu'on éprouve.
Ce voilà. qu'on éprouve en bateau, c'est la nopathie. Voilà, vous pourrez le ressortir le cas échéant. Alors, on a fait le calcul des points, ce qui nous donne, c'était assez serré, j'ai l'impression, dans les réponses.
C'est ex aequo pour cette manche, 15 points partout. Alors, ça fait quand même une avance de 10 points pour Florent, puisqu'il a 10 points du début. Donc, 25
points,
à 15 pour l'instant.
Voilà. Mélina, vous pouvez encore vous rattraper grâce au mot mystère. On vous a donné un mot tout à l'heure, hors antenne, avant de commencer le jeu. Il va falloir bien sûr le faire deviner à Florent. On commence avec vous, Mélina, vous êtes d'accord?
Très bien.
Allez, c'est parti, 45 secondes, bonne chance.
Alors, c'est un objet, en général, on en met dans les stylos et ça contient de l'encre.
Oui,
Une cartouche.
Oui. Alors là, franchement, je ne sais pas qui a trouvé cette question, mais...
J'avoue, c'était facile. Ouais,
c'est une fatigue du week-end ou quoi?
Ça doit être ça, oui.
C'était vraiment donné. J'espère que ce sera la même chose dans l'autre sens.
Ah bah, j'espère, en général, je fais...
On va vérifier ça très très près. Voilà, c'était la cartouche, évidemment. Florent a marqué 10 points. Allez, c'est à vous, Florent, maintenant, de faire deviner cette définition à Mélina. Même chose, 45 secondes. Voici le chrono.
Alors, donc c'est un mot qui désigne la mort de nombreuses personnes au cours d'une bataille pendant la guerre, par exemple.
Un massacre ?
Non.
Bah c'est plus lié à une bataille en particulier. Ça date de la Grèce antique. On le pratiquait sur des animaux au départ. Et c'est vraiment...
On peut penser aussi à des insectes, penser aux abeilles, par exemple.
Oui, voilà.
Pour vous aider un tout petit peu... Mélina,
j'ai perdu le mot.
Lorsqu'on perd un grand nombre aussi. D'insectes sur des populations qui s'effondrent, par exemple, on parle d'une... Alors là, je ne peux pas faire mieux, hein, parce que vraiment...
J'ai perdu.
Aïe, il est là au bout de la langue.
Oui.
Bah, c'était l'hécatombe.
Oui.
Ben voilà, bien sûr. Ah, c'est dommage. Alors, je crois que là, le calcul des points est nettement en faveur
De Florent, bien sûr. 35 points à 15. Donc, toutes nos félicitations, Florent. Vous avez gagné.
Merci.
Voilà. La victoire à la chapelle sur Furieuse.
Oui.
Et bah, vous repartez donc avec le documentaire de Marie-Monique Robin qui s'appelle Sacrée Croissance chez Arte Éditions. Alors, c'est une enquête qui explore les voies alternatives possibles à la croissance actuelle et illimitée.
Voilà en tout cas, Mélina, merci d'avoir participé à ce jeu.
Ben, merci à vous et puis bravo à l'autre participant.
Voilà.
Ben,
oui. Florent, donc en l'occurrence. Allez, passez une très bonne journée à tous les deux et merci infiniment. Oui. Au revoir.
Au revoir.
Affaire sensible, dans quelques minutes après les infos, Fabrice Drouel est là. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Quel en sera le sujet aujourd'hui?
L'assaut sur la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie le 5 mai 1988, 21 morts. Nous en parlerons aussi avec notre invité Jacques Folleroux, journaliste au journal Le Monde, co-auteur avec Philippe Le Gorgu, qui était commandant du GIGN à l'époque, du livre Ouvéa, la République et la morale.
A tout à l'heure, monsieur Drouel.